Le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme chaque soir par ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 22 décembre avec le journal d'Adrien Taufollet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, c'est le lancement en France de la vaccination des 5-11 ans.
Dernier feu vert des autorités sanitaires ce matin et déjà des premiers rendez-vous pris et des premières injections pour les enfants. Illustration à Douai, dans le Nord, avec des parents et des enfants détendus. En prévision des fêtes de Noël qui approchent à grands pas et face à la propagation d'Omicron, 20% des cas détecté en France déjà. Le gouvernement recommande encore et toujours de se faire tester. Message reçu, rué sur le dépistage, notamment à Clermont, vous l'entendrez. En Chine, 13 millions d'habitants de Xi'an testés hier et qui se retrouvent tous confinés aujourd'hui. La crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie dans ce journal également. L'ONU est interdite d'entrer dans la zone frontalière, laissant les migrants dans le froid de l'hiver. Les transferts médicaux de prisonniers, point faible de système pénitentiaire en France. Et puis, le nouveau Michel Houellebecq qui fuite sur Internet près de 3 semaines avant sa sortie.
À 18h15, un jour dans le monde et cette question. Après Éric Zemmour, Valérie Pécresse fait campagne en Arménie. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la grande communauté arménienne en France que l'on vise ou quelque chose de plus subtil? On le verra avec notre premier invité. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne en forêt ce soir avec cet inventaire annuel de l'IGN qui va vous passionner. La forêt en France progresse, c'est la bonne nouvelle, mais elle est plus fragile à cause du climat notamment. Est-ce que c'est aussi son exploitation qui pose problème? Et est-ce que planter des arbres pour absorber le CO2, c'est la bonne méthode? À vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Une première journée donc de vaccination des enfants placée sous le signe de la mobilisation générale.
Après le dernier feu vert du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ce matin, le gouvernement a lancé dans la foulée le top départ de la campagne de vaccination des 5-11 ans, suivi d'un Conseil des ministres où il a été question de l'épidémie en France et de la stratégie à venir. On y reviendra dans un instant, mais d'abord, direction le Nord à Douai, où des chanceux ont donc pu trouver un rendez-vous pour leurs enfants dès aujourd'hui. Le centre de vaccination avait anticipé, a ouvert des créneaux de vaccination dès ce matin pour accueillir parents et petits dans les meilleures conditions. Sur place tout à l'heure, ambiance très détendue à l'Ismaro.
La salle réservée aux enfants ressemble presque à un centre de loisirs avec des dessins au mur, des guirlandes sur les box et même une télévision. Arthur, 11 ans, patiente devant un épisode de Pokémon, il avait hâte de se faire enfin vacciner.
Pour protéger ma famille, parce que je les aime. Vendredi, je vais passer avec mes grands-parents. Comme ça, vraiment, je pourrais être sûre de ne pas le transmettre.
Et Nicolas s'est dépêché de prendre rendez-vous pour son fils.
On avait aussi peur du rush de la rentrée, en fait, donc on a sauté sur l'occasion.
Pour les plus petits, il y a aussi des coloriages. Luna, 5 ans, est venue avec son papa et elle en oublie même le vaccin.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Des dessins.
T'es venue ici pour quoi faire?
Une piqûre.
C'est ensuite une infirmière en costume de lapin rose qui vient la chercher.
Écoute. Je vais faire un pic dans le bras. D'accord, ça te va?
C'est fini!
C'est terminé!
Son pansement dinosaure sur le bras, elle repart tout de suite à son coloriage. Pour Sarah, l'infirmière, la clé, c'est de s'adapter aux enfants.
On se focalise pas en mode vite, il y a 15 minutes de surveillance, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est à leur rythme, on fait comme on peut, avec le temps qu'ils nous accordent. On a eu un petit garçon, on a mis une heure pour le vacciner.
Au total, une trentaine de vaccins ont été réalisés en une journée. C'est 3 fois plus qu'avant l'ouverture à tous les enfants.
Alice Marot de France Bleu Nord, pour trouver un rendez-vous, il faut pour l'instant s'armer de patience devant son ordinateur. Seulement 200 centres ont la possibilité de les piquer pour l'instant. Montée en puissance progressive, objectif du gouvernement, 350 centres d'ici janvier. Les ministres donc étaient réunis autour du président tout à l'heure, conseil des ministres, je le disais, pas de nouvelles restrictions à l'issue. Nous les aurions déjà annoncées aux Français, assure le porte-parole Gabriel Attal, passe vaccinal à la mi-janvier, on le savait déjà. Tout comme la recommandation des 3-4 jours de télétravail. Le variant Omicron représente maintenant 20% des cas détectés en France et on n'a toujours pas de confirmation sur sa dangerosité par rapport au Delta. À l'approche des fêtes, des repas en famille, il est toujours conseillé de se faire tester. Acte de civisme, geste rapide, simple et efficace qui peut éviter un grand nombre de contaminations, rappelle Gabriel Attal. Sur ce point d'ailleurs, il semble que le message soit déjà bien compris par les Français. C'est déjà la rue tromper sur les tests et autotests. 900 000 sont réalisés quotidiennement. Privilégier les tests PCR et antigéniques qui sont plus fiables que les autotests. Pour ça, les autorités mettent donc le paquet pour faciliter l'accès avec des opérations en extérieur, comme sur cette place du centre-ville de Clermont. Test antigénique gratuit, sans rendez-vous, résultat en 15 minutes. Et on peut rejoindre sa famille, l'esprit tranquille Arnaud Rozac.
Sous le petit barnum de la Croix-Rouge, à deux pas de la grande roue, les patients défilent à tour de rôle.
Là, on va y aller doucement.
C'est au tour d'Hermine, 23 ans.
Allez, je tourne une dizaine de fois. Ça va ?
Oui, ça va.
Les grandes tiges dans le nez, ça ne lui avait pas beaucoup manqué, mais l'étudiante a besoin d'être rassurée.
Je suis un peu malade, j'ai un peu le nez qui coule et j'ai mal à la gorge. Je vais voir mes grands-parents pour les fêtes et je voulais être sûre, quoi.
Être sûre de ne pas ramener le virus dans sa valise, même angoisse pour Jeanne, 21 ans.
C'est pour aller fêter les fêtes, plus l'esprit plus tranquille, comme je vais voir mes grands-mères, c'est pour prendre le moins de risques possible.
Vous êtes vaccinée ?
Oui, les deux doses, j'ai pas eu le temps de faire la troisième, mais voilà.
Et vous avez quand même fait la démarche de vous faire tester ?
Oui, ok, on sait jamais, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on peut pas l'avoir, donc autant en prendre le moins de risques possible.
Les deux jeunes femmes peuvent souffler, le résultat est négatif. Pour Jean Chefeyer, le délégué de l'Agence régionale de santé dans le Puy-de-Dôme, ces campagnes de tests soulagent également les pharmacies complètement débordées.
On est à plus de 46 000 tests par semaine actuellement dans le département, ce qui est énorme. Ce genre d'opération, c'est une arme très efficace. Les tests sont gratuits, il ne faut pas hésiter à y recourir.
Une nouvelle opération est prévue ce vendredi à 10h, toujours sur la place de Jaude.
Arnaud Rozac, France Bleu, pays d'Auvergne. Notons qu'avec Omicron, le nombre de résultats positifs augmente forcément. Près de 73 000 en 24 heures, disait hier soir Santé publique France. On pourrait dépasser les 100 000 d'ici la fin du mois, estime Olivier Véran. Et puis dernière information qui ressort du Conseil des ministres sur une échéance lointaine compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie. La présidentielle 2022, elle sera maintenue, fait savoir très clairement Emmanuel Macron. Premier tour 10 avril, deuxième tour le 24. Aucun projet sur la table de report, insiste Gabriel Attal.
Et au niveau mondial, comme en France, on affine sa stratégie contre l'épidémie.
Après l'Allemagne, hier, l'Espagne prend des mesures supplémentaires. 50 000 cas positifs en 24 heures, c'est un record. Retour du masque en extérieur. En Italie également, la réunion sera demain. Le port du masque obligatoire partout est aussi sur la table. Et même les FFP2 pour certains lieux clos. En Chine, on vous en parlait déjà hier soir, les autorités ont organisé un testing hier des 13 millions d'habitants de Xi'an, l'ancienne capitale impériale. Seulement une cinquantaine de nouveaux cas de Covid détectés, mais peu importe le nombre, confinement immédiat décrété dans toute la ville, Stéphane Pambrin.
Interdiction de sortir de chez soi, sauf raison impérative. La Chine a imposé ce mercredi un confinement à la ville de Xi'an, 13 millions d'habitants, en raison d'un rebond épidémique de Covid-19. 52 nouveaux malades aujourd'hui, de quoi inquiéter les autorités à 44 jours seulement des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le pays ne veut prendre aucun risque et maintient une stratégie zéro Covid. Dépistage systématique, limitation des déplacements, traçage électronique et une couverture vaccinale de 85% de la population ont permis jusque-là de contenir l'épidémie. Mais plusieurs foyers ont fait leur apparition cet hiver, notamment à Xi'an, situé à 900 km des sites olympiques. Dans cette ville, une seule personne par foyer est autorisée à sortir faire les courses, une fois seulement tous les deux jours. Les entreprises, les écoles et les administrations sont fermées et la ville est isolée du reste de la Chine. Les mêmes mesures avaient été prises à Wuhan il y a presque 2 ans. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
On quitte les actualités Covid pour la crise migratoire avec la tension qui ne faiblit pas entre la Pologne et la Biélorussie. L'ONU vient de se voir interdit d'accès à la zone frontalière entre les deux pays où des réfugiés se trouvent et sont victimes de violences, selon des témoignages par les forces de sécurité biélorusses. Les Nations Unies ont exhorté cette semaine les autorités à laisser passer représentants humanitaires, sociétés civiles et journalistes. Pendant ce temps, les tentatives de passer de la part des réfugiés se sont réduites ces derniers jours, mais les ONG continuent de s'inquiéter. Sarah Bakaloglou.
Pour Kalina Shvarnok de l'ONG Fondatsia Otsalenie, les tentatives de passage à la frontière sont certes moins nombreuses, mais continuent ces jours-ci dans des conditions extrêmes.
Bien sûr, moins de personnes essaient de traverser en ce moment car il fait très froid. La nuit dernière, il faisait moins 17 degrés. Le dernier cas de décès dans la forêt ce mois-ci était un homme probablement originaire du Nigeria et son corps a été retrouvé gelé au sol. Les pompiers ont dû intervenir et l'extraire de la glace. Je crains que de nombreux migrants meurent cet hiver.
L'ONG L'ONG souligne que tous les migrants ne sont pas trouvés par les gardes frontières polonais, ainsi leurs chiffres ne reflètent pas la réalité. Leur profil cependant a changé, explique Kalina Szwarnok.
Le changement que l'on voit surtout, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enfants. La plupart des personnes qu'on rencontre dans la forêt sont des hommes adultes, voyageant en petits groupes. J'imagine que c'est parce qu'il y a davantage de militaires et d'autres forces de sécurité, donc c'est plus difficile de traverser en gros groupes.
Les cas de refoulement à la frontière continuent d'arriver selon la représentante, tandis que ceux ayant pu demander l'asile en Pologne continuent d'être enfermés dans des centres de détention dans des conditions drastiques selon les associations. Varsovie, Sarah Bakaloglou, France Inter.
Y a-t-il en France un problème avec les transferts médicaux de prisonniers ?
La question se pose après l'évasion d'hier soir d'un détenu de la prison d'Aunier dans le Val d'Oise. L'homme a profité de son transfert à l'hôpital de Pontoise pour s'enfuir avec l'aide de deux complices, dont une femme armée d'un fusil, âgée de 28 ans et placée en détention provisoire dans une affaire de meurtre. Il est toujours en cavale à 7h. Bonsoir, Laurie Licarive.
Bonsoir.
Tout cela démontre que les extractions médicales sont un des maillons faibles de la pénitentiaire.
Oui, c'est la 8e fois cette année qu'un détenu profite de son transfert à l'hôpital pour se faire la belle. Dans la plupart du temps, ils prennent la fuite seuls, sans complice. Mais ici, l'évasion était bien préparée. Le détenu s'est tailladé le bras dans la soirée à une heure où il savait qu'il ne pouvait plus être envoyé à l'infirmerie de la maison d'arrêt. Pas d'autre choix donc que de l'emmener à l'hôpital de Pontoise où l'attendaient ses complices sur le parking. Visé par des tirs, les trois surveillants qui l'escortaient n'ont rien pu faire. Emmanuel Baudin est le secrétaire général du syndicat FO Justice.
Dès lors qu'on est à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire, on est fragilisé. Surtout quand on est en plus pas armé. Enfin, quand on a juste un gilet pare-balles et un sifflet, on n'est pas en capacité, et les détenus le savent. Donc là, vous avez quelqu'un qui intervient avec un fusil, bah, malheureusement, les agents peuvent rien faire que essayer de se protéger.
Depuis 3 ans, ce ne sont plus les forces de l'ordre qui escortent les détenus. Des équipes locales de sécurité pénitentiaire ont été créées, des ELSP dans le jargon, avec des surveillants qui sont habilités au port d'armes. Seulement, ça nécessite pour chacun d'entre eux une formation et le processus a pris du retard à cause de la crise sanitaire, entre autres, invoque le ministère. Résultat, sur les 187 établissements pénitentiaires que compte le territoire, seuls 51 disposent de ces équipes. Éric Dupond-Moretti, qui était tout à l'heure à la maison d'arrêt d'Aunier, a promis une accélération de leur déploiement.
L'Aurélie Carive du service police-justice de France Inter. Des fans d'Éric Zemmour dans le viseur de la justice. Ils se sont filmés, l'un avec une casquette ben voyons, en référence au tic de langage du candidat à la présidentielle, en train de s'entraîner au tir au fusil et annoncer leur cible. Emmanuel Macron, les Insoumis, Alexis Corbière et Raquel Garrido, les Antifa et des drapeaux algériens et marocains. Le parquet de Paris vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête pour menace de mort et provocation à la haine raciale.
Et puis, on termine avec la fuite d'un livre sur Internet, ce qui n'est pas fréquent dans le monde de l'édition.
Oui, mais ça en dit long sur l'attente qu'il y a autour de la sortie du nouveau roman de Michel Houellebecq. En théorie, rien ne doit fuiter sur Anéantir, son livre qui doit sortir le 7 janvier, mais coup de tonnerre pour l'écrivain et pour Flammarion, son éditeur. Des pages scannées du livre se sont retrouvées sur Internet, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ilana Mor-Youssef.
C'est un cauchemar d'éditeur qui est en train de se produire pour Flammarion. Le nouveau roman de Michel Houellebecq, Anéantir, a été envoyé à la presse vendredi dernier avec interdiction d'en parler avant le 30 décembre. Seuls des exemplaires papier ont été mis en circulation par l'éditeur. Aucun fichier PDF, justement pour éviter les fuites. Or, voilà que le Parisien révèle que sur le réseau social Twitter, un internaute s'est vanté hier soir d'avoir acheté le roman sur un site internet. À France Inter, Xavier Demagny, journaliste au service numérique, se l'est procuré gratuitement en quelques clics. Difficile à ce stade de mesurer l'étendue des dégâts. Combien de fois le livre a-t-il été téléchargé ? Est-il possible d'arrêter une catastrophe commerciale pour un livre tiré à 300 000 exemplaires et dont le lancement était archi-rodé et archi-verrouillé ? Personne aux éditions Flammarion ne s'exprime sur le sujet. On indique simplement que le service juridique s'en occupe. Ce n'est pas la première fois qu'un roman de Michel Houellebecq fuite sur Internet. En 2015, cela s'était déjà produit pour soumission.
Allez, encore un petit peu de patience. Donc la sortie officielle, celle-là, ce sera le 7 janvier.
Et merci beaucoup, Adrien Toffolé.